Donne la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, chez Robin Lorsil et Morgane Guiriec à Washington.
Les grands points de l'actualité, violentes manifestations à Zinder au Niger contre la publication de caricatures du prophète Mohamed.
C'est une première ici, on n'a jamais vécu une manifestation de telle ampleur à caractère religieux.
Le journaliste nigérien Amadou Mahamadou.
Dans le nord-est du Mali, une attaque fait 5 morts et plusieurs blessés près de Mopti.
L'opposition gabonaise se réjouit de la libération de plusieurs dizaines de ses partisans arrêtés le 20 décembre à Libreville.
Nous avons eu la joie d'apprendre ce matin que le juge avait saisi les plaidoiries de nos avocats et avait relaxé la quasi-totalité des prévenus.
John Kerry à Paris pour un hommage aux victimes des attaques terroristes, mieux vaut tard que jamais. À la Maison-Blanche, Barack Obama et David Cameron réaffirment leur engagement commun dans la lutte contre les extrémistes.
Et nous aurons comme d'habitude notre page économie, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
Violente manifestation aujourd'hui à Zinder, au Niger, après la prière du vendredi, en réaction à la caricature du prophète Mohamed parue en une du dernier numéro de Charlie Hebdo. Au sortir des mosquées, des centaines de musulmans s'en sont pris à des édifices publics, des églises et des débits de boissons. Timothée Donangmaï a joint sur place notre confrère Amadou Mahamadou.
On dénombre 4 morts, dont un gendarme qui, un véhicule devant la foule, le véhicule de la gendarmerie faisait marche arrière et marché sur lui, il est mort, il serait à l'hôpital. 3 autres par balle, en tout cas selon les informations hospitalières ou en tout cas. Mais jusqu'à présent, on attend la confirmation officielle. Bon, les corps ont été vus, mais du côté des autorités, on n'a pas encore confirmé. On parle de 4 morts, 3 blessés, dont un infirmier dont la main a été coupée en manipulant une grenade.
Amadou Mahamadou, joint à Zinder, au Niger.
Au Mali, la ville de Ténénkou, dans la région de Mopti, s'est réveillée ce matin par des tirs de groupes armés non identifiés, faisant 4 morts et 5 blessés. Les assaillants ont pu s'enfuir à bord d'un véhicule et sur des motos, nous dit notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
La ville de Ténénkou a été encore attaquée par des hommes armés ce vendredi entre 6h et 9h du matin. Bilan, 4 morts dont 3 militaires et 1 civil et 5 autres blessés, tous des militaires selon des informations reçues du centre de santé de référence. Les assaillants ont quitté vers la commune de Kareri pour longer les bords du fleuve en passant par le village de Penga avant d'attaquer la ville de Ténénkou. Ils sont arrivés à bord d'un véhicule immatriculé AMA, armée malienne, et des motos selon nos sources. Ces hommes sont tous des noirs et parlent correctement la langue peul. D'autres parlent des éléments de Moudiao, puisqu'on les entendait scander Allahu Akbar en faisant des tirs, nous a-t-on dit. Après leur forfait, les assaillants ont pris la route de Tienel en passant par Diabouzo pour se diriger vers Kemasina. C'est la troisième fois que les groupes armés attaquent le cercle de Ténénkou en moins de 3 mois. La dernière en date est le jeudi 8 janvier lors de la visite du gouverneur de la région de Mopti à Ténénkou. Le cercle de Ténénkou, faut-il le rappeler, s'ouvre sur le Sahel à travers la ville de Ndjoura pour aller vers les Rés jusqu'à Fassala, en territoire mauritanien. Mamadou Bokoum à Mopti pour La Voix de l'Amérique.
Annoncée cette semaine, l'aide militaire tchadienne au Cameroun se concrétise ce vendredi. Des chars ont quitté N'Djamena en direction de la frontière camerounaise pour combattre Boko Haram. Nicolas Pino.
Oui, plusieurs dizaines de chars ont quitté la capitale tchadienne en direction du sud de la ville, vraisemblablement pour traverser le fleuve Logone et entrer au Cameroun. Dès hier soir, des mouvements de troupes ont été signalés dans N'Djamena. Paul Biya, le président camerounais, avait annoncé jeudi l'offre d'intervention militaire tchadienne de son homologue Idriss Déby. Deux événements ont sans doute accéléré le déploiement tchadien pour combattre Boko Haram, l'attaque de la ville frontalière camerounaise de Kolofata et la prise de la base multinationale de Baga par les djihadistes. Baga est une localité nigériane située sur les rives du lac Tchad. Selon Amnesty International, cette attaque de Baga est la plus grande et la plus destructrice jamais perpétrée par le groupe armé depuis le début de son insurrection en 2009. En 6 ans, Boko Haram a fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés. Après le secrétaire d'État américain John Kerry, hier, le président français François Hollande a également utilisé le terme de crime contre l'humanité pour qualifier les agissements de Boko Haram.
À noter que Boko Haram a enlevé plusieurs centaines de femmes et d'enfants lors de l'attaque de Baga, dans le nord-est du Nigeria. Des témoins cités par l'AFP et Amnesty International parlent de centaines de femmes captives avec leurs enfants. Boko Haram aurait libéré les femmes âgées et les mères, mais les jeunes filles seraient toujours otages.
Dominique Ongwen, l'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, qui s'est rendu en Centrafrique, doit arriver aujourd'hui sur Bangui. Une source gouvernementale précise qu'il doit être directement transféré dans la soirée vers La Haye, aux Pays-Bas, où l'attendent les juges de la CPI, la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
À l'issue des deux premières journées de discussion à l'ONU à Genève, différentes factions libyennes sont parvenues à un accord sur un agenda en vue de former un gouvernement d'unité. Claire Morin-Gibourg.
Sous l'égide de la MINUL, la force des Nations Unies pour la Libye, une vingtaine de représentants de divers groupes de la société libyenne, parlementaires, membres des municipalités et d'associations, se sont mis d'accord après d'intenses délibérations pour former un gouvernement d'unité consensuelle, selon un communiqué de l'ONU. Ils ont appelé à l'arrêt des combats pour, disent-ils, créer un environnement positif pour le dialogue et souhaitent le retrait des groupes armés de toutes les villes libyennes. Les participants demandent également la libération des prisonniers détenus illégalement, la réouverture des aéroports et la liberté de mouvement dans le pays. L'objectif de cette réunion est de tenter de sortir la Libye du chaos dans lequel elle s'est enfoncée depuis la chute de Muammar Kadhafi en octobre 2011. Mais selon certains experts, ces négociations ont peu de chances d'aboutir car les factions ayant le plus d'influence sur le terrain, comme Fajr Libya, l'aube de la Libye, n'ont pas été invitées. Les discussions devraient reprendre mardi à Genève.
Au Burundi, la police a annoncé avoir arrêté un dirigeant de l'opposition dans le cadre d'une enquête sur les affrontements meurtriers au début du mois entre l'armée et les insurgés. Lionel Gaïma.
Patrick Nkurunziza, président de la Ligue de jeunes du Front pour la démocratie, Frodebu, a été arrêté jeudi, a indiqué le porte-parole de la police Pierre Nkurikiye, que cite l'AFP. Il a été conduit dans la province de Cibitoke où sont incarcérées 9 autres personnes accusées d'appartenir au groupe de rebelles ayant lancé une attaque dans cette localité. C'est la dernière d'une série d'arrestations d'opposants qui, selon l'opposition burundaise, vise à les empêcher de participer au scrutin de mai et de juin prochains. Le même jour, le vice-président du Frodebu, Frédéric Bamvuginyumvira, a été condamné à 5 ans de prison pour corruption. Une peine qui, selon lui, a été prononcée à son encontre pour le retirer de la course électorale. Pendant ce temps, une nouvelle coalition a été créée au Burundi, rapporte le réseau d'information sur l'Afrique centrale. Le Ranak Dushayure Uburundi Bgogorore réunit 8 partis politiques coalisés pour tenter de remporter les prochaines élections contre le CNDD-FDD au pouvoir. Le Rassemblement national pour le changement, composé entre autres du FNL d'Agathon Rwasa et l'UPRONA de Charles Nditije, indique que sa plateforme politique sera rendue publique dans les prochains jours.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Opération antiterroriste tout azimut en Europe après les récents attentats en France. Des arrestations et perquisitions ont eu lieu en région parisienne ainsi qu'en Allemagne et en Belgique. En visitant la capitale française, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les États-Unis et la France poursuivraient ensemble et sans relâche la lutte contre le terrorisme. Jacques Aristide.
Une arrivée mitraillée par les photographes à l'Élysée, où le chef de la diplomatie américaine a rencontré le président français François Hollande. Ensuite, dépôt de gerbes aux côtés de son homologue Laurent Fabius, devant les lieux des attaques, le supermarché Cacher et les locaux de Charlie Hebdo. Plus tard, un discours à l'hôtel de ville de Paris, prononcé alternativement en anglais et en français. John Kerry.
La femme a battu un musulman malien qui a risqué sa vie pour sauver des clients juifs de l'hypermarché Cacher. Nous n'oublierons pas jamais ces héros et toutes les victimes de cette tragédie alors que nous sommes confrontés. Le monde est confronté à de lâches assassins. Ils se cachent derrière des cagoules et des fusils d'assaut.
Pendant ce temps, l'Europe est sur le pied de guerre. À Paris, une dizaine de personnes soupçonnées d'avoir fourni des armes et des véhicules aux auteurs des attentats de la semaine dernière ont été interpellées. À Berlin, les autorités affirment avoir effectué vendredi matin une dizaine de perquisitions au sein de la mouvance islamiste. Un ressortissant turc a été arrêté, mais la police indique ne pas pouvoir confirmer que les personnes visées préparaient des attentats en Allemagne. Et du côté de la Belgique, le gouvernement affirme qu'un groupe qui s'apprêtait à commettre des attentats pour tuer des policiers a été démantelé. 13 personnes ont été appréhendées dans le cadre d'une opération marquée par la mort de deux suspects après avoir riposté à l'arme de guerre.
Le secrétaire d'État John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif devaient s'entretenir ce vendredi à Paris autour du programme nucléaire de l'Iran. L'échange précède la reprise des négociations du groupe 5+1 cette fin de semaine. Et le président américain Barack Obama et le premier ministre britannique David Cameron se sont entretenus pour une deuxième journée aujourd'hui à Washington sur des sujets tels que le terrorisme, Ebola, le rôle de la Russie en Ukraine et la cybersécurité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
L'actualité économique dans la Minute Éco aujourd'hui avec Jacques Aristide. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Morgane. Bonsoir à tous.
Ecobank condamné à verser 15 millions de dollars à un ancien directeur général.
L'Ivoirien Thierry Tano a obtenu gain de cause après son départ forcé il y a près d'un an. Le tribunal de commerce d'Abidjan a en effet tranché en sa faveur dans le cadre d'une procédure pour diffamation. Un des dirigeants d'Ecobank avait traité M. Tano d'immature, de menteur, ajoutant qu'il était inapte à exercer la profession bancaire. Albert Essian, actuel directeur général de la banque, a déclaré au Financial Times que le jugement était injuste et que le groupe ferait appel. Une autre procédure, celle pour licenciement abusif, est traité au Togo, pays où a été fondé ce réseau bancaire panafricain présent dans 33 pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est.
Le Tchad n'abritera pas le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu initialement en juin 2015.
Et les raisons de ce revirement avec le ministre des Infrastructures et de l'Aviation civile, Adoum Younoumi.
La conjoncture actuelle que connaissent beaucoup de pays, notamment le Tchad, quand vous avez une chute aussi brutale, aussi vertigineuse, aussi inattendue de ses ressources premières, l'exportation des ressources pétrolières, pour des questions de sécurité aujourd'hui entre le Cameroun et le Nigeria, la frontière du Nigeria est fermée. Notre économie en dépend énormément du Nigeria également. Vous tous, vous allez nous traiter d'irresponsables dans cette situation. Donc face à nos responsabilités, il va falloir prendre des décisions.
Et puis, Morgane, le conseil du Café Cacao vient de lancer un projet d'1,7 milliard de francs CFA à l'intention de 1000 jeunes ivoiriens.
Voilà pour la Minute Éco de ce vendredi. Merci Jacques Aristide.
Nous accueillons en studio maintenant Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
C'est notre page sport. Beaucoup de tensions en dehors des terrains alors que les matchs de la CAN 2015 n'ont pas encore commencé.
Oui, Claude Leroy, le sélectionneur de l'équipe du Congo qui dispute le match d'ouverture demain à Bata contre la Guinée équatoriale n'est pas content. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, il a répondu très brièvement aux questions des journalistes. Et puis, selon le journal L'Équipe, le Cameroun serait menacé de se faire expulser de son hôtel où les Lions Indomptables préparent la CAN. Le motif, certaines factures n'ont pas été payées.
Mais le sport, le vrai, c'est sur le terrain demain.
À Bata, le match d'ouverture entre le Congo-Brazzaville et le Nzalang National, puis le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique 2013.
Tout, bien sûr, va jouer contre le Gabon. On va faire le point sur cette rencontre avec Salif Kabore.
Ce match est celui de la confirmation pour les Panthères du Gabon et de la revanche pour les étalons du Burkina Faso. Car dans les éliminatoires, les Gabonais avaient été plus réalistes en battant chez eux les étalons par 2-0 avant de réaliser le nul de 1-1 au retour à Ouagadougou. Les Burkinabés, sans aller Traoré, devront compter sur Jonathan Pitropa, le meilleur buteur des éliminatoires. Les Gabonais ont l'avantage de jouer à quelques kilomètres de leur base, alors que les Burkinabés doivent avant tout défendre leur place de vice-champion. Chaque équipe, cherchant à faire un bon résultat à l'entame de la compétition, rendra le spectacle vivant, on l'espère. En route pour Bata, en Guinée équatoriale, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Alors Nicolas.
Oui, on va parler à présent de la NBA, évidemment. Le championnat de basket nord-américain, 3 résultats hier soir. Les Knicks de New York ont battu Milwaukee, 79-95. Oklahoma City avait été battu par les Texans de Houston, 112-101. Et Cleveland contre Los Angeles, 109-102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous sommes au studio 13 à Washington, chez Ruben Orsil et Morgane Guériac pour cette édition du 16 janvier. Place au dossier du jour.
Retour sur les violentes manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui à Zinder, au Niger, après la prière du vendredi. C'est en réaction à la caricature du prophète Mohamed, parue en une du dernier numéro de Charlie Hebdo. Au sortir des mosquées, des centaines de musulmans s'en sont pris à des édifices publics, des églises et des débits de boissons. Timothée Donongmaï a joint sur place notre confrère Amadou Mahamadou.
C'est une première ici, on n'a jamais vécu une manifestation de telle ampleur à caractère religieux depuis la fin de la prière du vendredi à 13h30 heure locale. Les différentes mosquées ont vomi leurs fidèles qui ont convergé dans les rues principales et ont érigé des barricades, ont brûlé des pneus et ont attaqué des églises, les églises de catholiques protestantes, les centres culturels franco-nigériens, les débits de boissons, des arènes, les quartiers, tout le Djamous, tout ce qui est débit de boissons a été coulé et tous les sièges du jeu de hasard, on appelle ça permis ici, ça a été saccagé, incendié et les centres culturels de franco-nigériens d'ailleurs brûlent jusqu'à présent. La manifestation, il y a jusqu'à présent dans les rues des endroits où ça fume encore. Donc c'est une marée humaine qui a déferlé et ils ont saccagé le siège du parti présidentiel. Ils ont démoli les murs, brûlé les voitures qui se trouvaient, brûlé les papiers, tout. Ils ont saccagé le siège en réaction au déplacement du président en France pour les hommages aux victimes de l'hebdomadaire des attentats de Charlie Hebdo et au soutien à la liberté d'expression en France. Hier, ils ont manifesté ça à travers les SMS pour dire qu'ils vont marcher et ils l'ont fait.
Faut-il voir dans ces manifestations l'impact de la proximité du Nord Nigeria où sévissent les islamistes de Boko Haram en ce moment?
On ne peut pas écarter la proximité du Nigeria parce que vous savez, les gens du Nigeria et ici, c'est le même peuple, les mêmes écoles coraniques, les élèves. Mais Zinder, par tradition, au Niger, c'est la région où la foi est très marqué, où les gens sont vraiment des croyants. Ils le montrent les vendredis, tous les vendredis, on se croirait ailleurs, à la Mecque ou à Médine, dès 10h, les gens arrêtent toute activité pour aller dans les mosquées. Et si vous voyez les gens déferler dans les mosquées, c'est une marée humaine qui déferle tous les jours dans toutes les mosquées. Il y en a beaucoup ici, les périodes du vendredi. C'est une ville de religion, c'est une tradition. Sans Boko Haram, avant même Boko Haram, en 90, il y a eu phénomène bougé ici. On a un vendredi, les gens ont marché, ils ont détruit le siège de l'association des femmes du Niger. Ils se sont attaqués au quartier des femmes libres. Ils ont détruit, les femmes étaient obligées de fuir pour aller à Maradi ou aller vers d'autres villes.
Notre confrère Amadou Mahamadou joint à Zinder au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cap maintenant sur le Gabon, où la justice a relaxé la majorité des partisans de l'opposition arrêtés lors d'une manifestation le 20 décembre. Pour rappel, de violents heurts avaient opposé les manifestants aux forces de l'ordre lors de ce rassemblement où l'opposition réclamait le départ du président Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition se disent satisfaits de la mesure judiciaire, tout en demandant la remise en liberté des autres détenus du 20 décembre. On écoute la réaction de Pierre Amugemba, secrétaire exécutif du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon.
Nous avons eu la joie d'apprendre ce matin que le juge avait suivi les plaidoiries de nos avocats et avait relaxé la quasi-totalité des prévenus. Je tiens à dire que l'accusation n'a produit à aucun moment des preuves de la culpabilité de l'un d'entre eux et que par ailleurs, les bases sur lesquelles il avait bâti son argumentaire ont été détruites par nos avocats. Ce qui fait que le juge n'a eu aucune peine a décidé de leur relaxer. Ce que je regrette, c'est que pour un ou deux d'entre eux, le juge, après avoir reconnu que l'attroupement n'était pas interdit, a décidé malgré tout de retenir le fait que le meeting était interdit. Or, le meeting n'était pas interdit.
Ces deux personnes, elles encourent quoi?
Elles encourent 3 mois de condamnation, dont 2 avec sursis. Et pour ceux d'entre eux qui sont d'origine étrangère et qui n'avaient pas de cas de séjour, elles ont eu 6 mois de condamnation, dont 5 avec sursis. Et évidemment, ils seront expulsés du Gabon pendant 5 ans. Ils seront interdits de séjour au Gabon pendant 5 ans.
Vous appelez évidemment à leur libération.
Absolument.
Après ce qui s'est passé le 20 décembre, et compte tenu de la réaction musclée des autorités, est-ce que l'opposition va changer de stratégie?
Nous n'avons pas encore arrêté une attitude définitive à ce sujet, mais je voulais dire la chose suivante, c'est que de notre point de vue, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que le parti au PDG ait la possibilité de faire des meetings et des marches et que nous n'ayons, nous, aucune possibilité de pouvoir, à notre tour, manifester et pouvoir dire ce que nous avons sur le cœur. De même, nous ne trouvons pas tout à fait normal que le parti au pouvoir, le PDG, ait le monopole des médias d'État qui sont à la charge des contribuables gabonais. Alors, l'opposition n'a pas le droit de passer à la télé et à la radio nationale. Nous trouvons ça tout simplement scandaleux.
Pierre Amougemba, secrétaire exécutif du Front de l'opposition pour l'alternance, je les joins à Libreville, au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon, sur Ogoué FM, à Libreville.
Le Zimbabwe a été toujours connu pour ses mariages précoces. Selon les Nations Unies, 31% des jeunes filles du pays sont mariées avant l'âge de 18 ans. Maintenant, deux d'entre elles disent « assez, c'est assez » et on saisit la Cour constitutionnelle pour à 18 ans l'âge minimum. Voici un reportage d'un correspondant sur place présenté par Michel Joseph.
Loveless Mudzuru et Ruvimbo Tsopodzi étaient trop jeunes quand elles ont été données en mariage et ont eu pour la première fois des enfants. Dans leur saisine de la plus haute instance judiciaire du Zimbabwe, elles demandent spécifiquement que l'âge légal du mariage pour les filles passe de 16 à 18 ans, comme c'est le cas actuellement pour les garçons. Elles veulent aussi l'annulation des mariages précoces actuels. Un tel effet rétroactif pourrait affecter un grand nombre de filles et leurs familles. Pour leur avocat, l'ancien ministre des Finances, Tendai Biti, il s'agit d'assurer que les futurs mariés prennent librement leurs décisions.
Il y a un problème de mariage précoce au Zimbabwe. Une femme sur trois est mariée avant l'âge de 18 ans. 20% d'entre elles sont en grossesse avant 15 ans. Donc on parle de très jeunes enfants dont la plupart viennent de familles pauvres. En somme, on a une enfant qui attend un enfant, ce qui affecte leur scolarité ainsi que leur chance de succès et perpétue le cycle de la pauvreté.
Du reste, fait remarquer Tendai Biti, la nouvelle constitution fixe à 18 ans l'âge requis pour se marier. De son côté, Emily Nafambo de l'ONG Plan International souligne que les mariages précoces violent les droits des enfants et doivent prendre fin.
We have very high prevalence rates of short marriages, second from South Asia.
Nous avons un taux très élevé de mariages précoces après l'Asie du Sud. Notre région en est à 37%, mais au sein de cette région, il y a des points chauds avec des pays qui dépassent ces 37%. Par exemple, au Malawi, au Mozambique, au Zimbabwe et en Zambie, où le taux de prévalence frise les 50%, cela signifie que 50 sur 100 jeunes filles sont mariées avant qu'elles n'aient 18 ans. Ceux qui luttent contre les mariages précoces expliquent cette réalité par la pauvreté, l'ignorance et des coutumes bien ancrées. Les conséquences sont nombreuses sur le plan des droits humains et de l'instruction des filles qui risquent ainsi de ne pas avoir de bons emplois et des soins de santé adéquats. Les conséquences peuvent être même mortelles, cette situation de mère-enfant contribuant à des taux élevés de mortalité infantile et maternelle.
Nous vous le disions tout à l'heure, la 30e Coupe d'Afrique des Nations débute demain sur le terrain. La cérémonie d'ouverture a lieu ce vendredi cependant et demain place aux deux matchs. Pour en parler, Nicolas Pinault.
Rebonsoir.
Alors Nicolas, quel est le favori de cette compétition, au moins selon vous?
Eh bien, il est algérien. Hein. Ce sont les logiques favoris, évidemment. Les Fenech, entraînés par Christian Gourcuff, se sont qualifiés facilement pour ce tournoi. Lors des éliminatoires, ils ont remporté 5 victoires auréolé de son beau parcours au Mondial 2017, élimination en huitième de finale face au futur champion du monde allemand. L'Algérie est aujourd'hui l'équipe africaine la mieux classée au classement FIFA, 18e. Placée dans le groupe C, présentée comme le groupe de la mort, les Algériens devront d'abord sortir de ce premier tour difficile avant d'espérer remporter un trophée qui leur échappe depuis 1990.
Et d'autant que, semble-t-il, ils ont des problèmes de gardien de but.
Oui, ils ont dû changer le deuxième qui a été blessé par un autre.
Un nouveau vent, plutôt un vent nouveau, il faudrait dire, souffle au Cameroun depuis le désastreux mondial brésilien, Nicolas.
Eh oui, et donc et notamment depuis la retraite aussi de Samuel Eto'o. Alors, coïncidence ou non, est-ce que les Lions indomptables sont meilleurs? En tout cas, ils se sont relevés. Ils ont évidemment eu un très bon parcours lors des éliminatoires. On rappelle que les Camerounais sont quadruples champions d'Afrique, mais ils ont été absents en 2012 et 2013. Mais... Groupe D, difficile évidemment face à la Côte d'Ivoire qui les avait battus en éliminatoire.
Et Hervé Renard évitera-t-il une nouvelle désillusion pour la Côte d'Ivoire?
Et c'est la grande question du côté d'Abidjan. Le technicien français a pris les rênes d'une sélection qui n'a toujours pas réussi à passer le cap du premier tour malgré trois Coupes du Monde d'affilée. Didier Drogba a pris sa retraite internationale, mais à l'inverse, les Camerounais, les Ivoiriens n'ont pas rassuré lors des éliminatoires où ils ont péniblement décroché la deuxième place de leur groupe. Sur le papier, cette équipe fait peur, emmenée par Yaya Touré, sacré pour la quatrième fois meilleur joueur de la CAF. Les éléphants peuvent aussi compter sur le talentueux Gervinho, Salomon Kalou et Wilfried Bony.
Alors, les petites équipes, entre guillemets, ont-elles une chance? La RDC, la Guinée?
Et oui, pour nos auditeurs, la RDC, donc, elle peut s'appuyer sur les cadres du tout-puissant Mazembe, mais également sur l'AS Vita Club. Difficile cependant pour les Léopards, qui n'ont plus accédé au quart de finale depuis 2006. Quant à la Guinée, après la raclée prise contre le Sénégal 5-2 lors du match de préparation, ça va être vraiment très très difficile dans un groupe D avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali. Pas facile pour le Sili National.
Alors Nicolas Pinault, menu spécial sur VOA Afrique dès mercredi prochain pour la CAN.
Alors dès lundi en fait. Dès lundi, la Voix de l'Amérique se met à l'heure de la CAN avec un journal de la CAN le matin et le soir dans Le Monde aujourd'hui. Et à 19h, temps universel, antenne libre pour les auditeurs pour refaire le match et parler évidemment de cette compétition qui va nous faire vibrer jusqu'au 8 février prochain.
On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Le Brazzavillois Zao travaille sur son 8e album. Adepte du trompe-l'œil avec des textes qui jonglent entre légèreté et profondeur, le chanteur congolais réactualise son propos avec l'album Nouveau Combattant. On se rappellera toujours de son morceau fétiche, Ancien Combattant.
Moi, un gazé militaire, moi pas besoin galop. Soutez-moi du riz. Serza Masamba, trahir Mangasa, caporal Mitsotso, la guerre pour moi, vous cherchez vos sorrows. Yisatra, tu couvri questo.
Mogapepe, moyinga kanga kwe. Mogapepe, moyinga kanga kwe. Makele pa, un, deux, ancien combattant, on a soukere. Makele pa, un, deux, ancien combattant, on a soukere.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale.
C'était Zao dans Ancien Combattant.
Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie, Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
J'ai tué Allemand. J'ai tué Angélé, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'appelait pas. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré.
Ainsi va Le Monde. Aujourd'hui, Lionel Gaïma a assuré la production en compagnie de notre ami Lopez.
Merci de nous avoir suivis et merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Diriec et Chérubin Dorsil.
Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir.
Si tu fais pas mi changi mon chéri.